Donc bienvenue à ce discours. Dans ce discours, j'aimerais parler du yatra, de la forme du yatra, et de pourquoi je pense que c'est une recherche de liberté. Et j'aimerais aussi aborder et qu'on essaye ensemble de distinguer la relation entre la liberté et le bonheur. D'abord, pour commencer, donc le yatra, je l'ai dit, l'idée est née il y a une vingtaine d'années et on en a fait plein, avec beaucoup, beaucoup de gens, des groupes beaucoup plus gros que ce qu'on est là. Et au début, on avait un camion pour stocker le matériel et tout, qui était le nôtre. Et dessus, on avait écrit une grande maxime qui est devenue la devise du yatra. Et je pense que vous ne la connaissez pas encore, la devise du yatra. C'est nulle part où aller, 10 jours pour s'y rendre. C'était la devise. Là, on a 9 jours, mais on n'a pas besoin de se presser quand même. Je vais commencer par lire une parole de Rumi, et puis je vais cheminer, peut-être en démarrant un peu ailleurs et en venant vers là. C'est dans son recueil qui s'appelle le Matnaoui. L'erreur des gens de ce monde ne consiste pas tant dans leur amour des choses de ce monde que dans leur incapacité à voir que toutes les choses de ce monde ne sont que les ombres du véritable bien-aimé. L'oiseau vole dans les hauteurs tandis que son ombre se hâte sur le sol, volant comme un oiseau. Le sot chasse cette ombre, courant après elle jusqu'à l'épuisement. Ignorant qu'il s'agit du reflet de l'oiseau dans le ciel, sans avoir conscience de la source de l'ombre. Je me rappelle d'une réalisation que j'ai eue, d'une réflexion que j'ai eue quand je faisais des retraites solitaires en Inde. Donc, j'avais choisi d'être seul, j'avais ma petite maison, j'étais seul pendant plusieurs mois. Mais je pouvais faire autre chose, en fait. Et à un moment, je me sentais, j'avais comme un moment de grâce où je me sentais exalté de réaliser qu'en fait, je pouvais faire tout ce que je voulais. Je sentais que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je pouvais rester là, je pouvais retourner à Benares écouter de la musique, je pouvais aller à l'océan, je pouvais rentrer en France, je pouvais décider de rester célibataire, je pouvais chercher une compagne, fonder une famille. Tout m'était ouvert et je me sentais extrêmement libre. Et je me rappelle que c'est à ce moment-là qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui a dit « Vraiment libre ?» Et là, je me suis rendu compte, en fait, que oui, on peut appeler ça de la liberté, mais en y regardant plus profondément, aussi, je voyais bien que mes choix pouvaient être motivés par des croyances, que mes choix pouvaient être motivés par des peurs, peut-être la peur de m'engager. Et du coup, en fait, peut-être la voie du couple m'était fermée. Je voyais qu'en fonction de ce fonctionnement personnel, de ma personnalité, certaines portes m'étaient ouvertes et m'attiraient, et que c'est vers là que j'allais aller, quoi que je veuille, et d'autres m'étaient fermées. Et du coup, je me suis rendu compte que il y a plusieurs définitions à la liberté, comme à beaucoup de choses une fois qu'on entre dans le monde de la réflexion spirituelle. On peut dire une chose, et c'est juste, mais on peut aller à un autre endroit de notre réflexion, et voir qu'à cet endroit-là, ce n'est plus juste. Donc c'était juste de dire, à partir du moment où je peux choisir ce que je vais faire, j'avais suffisamment d'argent pour retourner en France, j'avais suffisamment d'argent pour aller à Goa, ou même aller en Thaïlande, je pouvais choisir. Donc d'une certaine manière, conventionnellement, on peut dire j'étais libre, mais en y regardant plus profondément, Mes choix auraient été motivés par des choses qui n'ont pas forcément été toutes décidées par moi, mais qui m'ont été apprises par un fonctionnement que j'ai appris peut-être dans ma famille ou ma société. Et donc je me suis rendu compte, oui, libre, d'une façon relative, dans une certaine mesure. Quand on peut aller où on veut, quand on peut faire ce qu'on veut, alors on se sent libre. Mais à mon sens, ça ne veut pas encore dire qu'on est libre. À mon sens, il faut aller plus profondément que ça. Dans la musique classique indienne, donc j'étudiais aussi la musique classique indienne quand je ne faisais pas des retraites solitaires, et c'est une musique qui est le reflet d'une grande sagesse et qui est un reflet en fait de l'esprit indien, de la manière dont ils envisagent la vie et dont ils envisagent la création et le cosmos. Et à chaque raga, donc c'est des ragas, c'est des improvisations qui durent très longtemps. À chaque raga commence par ce qu'on appelle l'alap. Et l'alap, c'est le mélodique, hein, parce qu'il y a toujours la mélodie et le rythme. Et c'est le mélodique, donc ça va être un chanteur, un sitariste, ça va être santour, voilà, quel que soit l'instrument, il va commencer tout seul. Et il fait des petites phrases avec sa voix, avec son instrument, plus ou moins longues. Il accélère, il ralentit. En fait, ça, c'est la création du cosmos. Il n'y a pas encore le rythme. Il n'y a pas encore l'organisation. Là, c'est le moment où les planètes ont toutes explosé et elles vont toutes dans des directions sans être en lien les unes avec les autres. Peut-être. Et puis, il y a un moment où ce musicien, ce mélodiste, va abandonner sa liberté pour pouvoir rentrer en relation. Parce que s'il n'accepte pas le rythme, il ne peut jouer que tout seul. Il ne peut pas être avec. Et on peut faire toutes les comparaisons qu'on veut dans une société pour vivre ensemble. Donc il abandonne une partie de sa liberté, parce que sinon il ne peut pas être en lien avec. Alors qui est le plus libre? Celui qui reste seul à faire tout ce qu'il veut, ou celui qui dit non à une partie de sa liberté pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir être en lien avec les autres. Et là déjà, on sent que la forme du yatra nous pose cette question. Dans le yatra, on a parlé hier, dans les retours, il y a eu beaucoup de retours de combien le yatra a été important pour beaucoup d'entre nous pendant la tempête. Quand on voyait plus grand-chose. Certains disaient, juste de pouvoir suivre les pas de celui qui était devant moi, c'était tellement réconfortant. Ça m'a vraiment permis de rester centré et sans peur. Combien ont dit que c'était dans cette ligne, cette longue ligne, que certains d'entre nous vont puiser l'énergie. Et en fait, parce qu'on a accepté de prendre un rythme commun, parce qu'on a accepté de ne plus être des individus séparés, donc, parce qu'on a accepté l'union, chacun d'entre nous a pu arriver jusqu'ici aujourd'hui. Seul, aucun n'aurait pu. Mais pour pouvoir être ensemble de cette manière, on a dû dire non à certaines libertés. Ça paraît complètement fou, en fait, contradictoire. Certains ont dit comme c'est beau en fait, le fait de ne faire qu'une forme, une ligne, un serpent, et comment chacun met de l'énergie dans cette unité, dans cette forme, et que chacun puise de l'énergie là, dans cette unité, dans cette forme. Mais, pour que ça puisse être, il faut résister à nos désirs personnels. Et ça, c'est pas simple. Nos désirs personnels d'aller là où le regard nous porte et vers les choses qui nous attirent. Et c'est dur. Et c'est dur, pas pour tout le monde. Certains d'entre vous se trouvent très confortables dans la ligne et sentent cette puissance, cette place, et c'est sans conflit. Mais pour beaucoup d'entre nous, je me rappelle pour moi-même, et j'ai beaucoup d'amis, pour qui ça a été vraiment longtemps dur d'accepter de ne pas ramasser cette petite pierre, d'accepter de ne pas s'arrêter prendre cette photo, d'accepter de marcher dans la ligne. Dur. C'est pour ça cette question que je posais il y a 2 jours. Est-ce qu'on est capable d'y trouver un sens? Parce que si on n'est pas capable d'y trouver un sens, je pense même que, en fait, ce n'est pas très sain. Parce que c'est quoi cette règle? Elle sert à quoi? On en a tellement des règles. Et tellement de règles qui réduisent notre société à un fonctionnement stupide et destructeur. Heureusement qu'on est là pour ne pas les accepter, ces règles. Le conformisme va détruire. C'est Krishnamurti, je crois que c'est lui qui disait être bien adapté à une société malade n'est pas un signe de bonne santé. Le conformisme est une maladie grave. Et si le yatra n'est pas compris dans son essence et dans sa profondeur, on pourrait croire que c'est une règle avec une certaine rigidité qui, quelque part, ne s'explique pas ou ne justifie pas qu'on prenne autant de pression parfois à être dans la ligne. Mais parfois, du coup, on confond, en fait, au niveau de liberté, on confond. On croit, moi, je suis quelqu'un de libre, je fais ce que je veux. Je ne me conformerai pas à un modèle donné par un groupe. Mais est-ce vraiment ça, la liberté? Et quand on a cette compréhension, qui est une compréhension qui donne des actes de rébellion qui sont magnifiques et nécessaires de nouveau dans notre monde, mais parfois c'est aussi l'expression de notre incapacité à juste accepter les règles d'une communauté. Et il va falloir beaucoup de sagesse et de clairvoyance pour distinguer quand c'est moi qui suis, quand ça devient de l'individualisme en fait. Quand moi, c'est moi et ma liberté, à tout prix. Et quand est-ce que je peux laisser de côté ma liberté pour l'unité? Tout comme ce musicien va à un moment accepter de laisser de côté sa liberté pour pouvoir se relier. Et dans le monde du dharma, j'en ai croisé tellement aussi des personnes, parce que la liberté est vraiment, c'est un des horizons qui nous appellent, c'est l'étoile que l'on suit, la recherche de la liberté. Mais parfois c'est confondu et du coup j'ai vu aussi beaucoup cette erreur chez des amis dans le dharma d'une incapacité de s'engager, parce que s'engager, c'est perdre de la liberté. Choisir, c'est mourir un peu. Pour s'engager vraiment dans quelque chose veut dire non à autre chose. Si on ne veut dire non à rien parce qu'on veut rester libre, pour moi, on n'est pas libre. Parce qu'on n'est pas libre de s'engager. On est motivé par la peur. La liberté, du coup, ne doit-elle pas être trouvée dans la forme? Parce qu'il est nécessaire de prendre une forme plutôt que de rester satellite des formes. On entend souvent aussi parler de la liberté de penser. Très importante, la liberté de penser. Et de pouvoir exprimer ses pensées. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Mais encore une fois, la liberté de penser n'est pas, ne garantit pas qu'on trouve le bonheur. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir leur manière de penser et qui vont être incorruptibles, c'est-à-dire comme c'est Sénèque, le philosophe Sénèque, philosophe du deuxième siècle, qui en fait était esclave. Et puis qui a été, enfin, je ne sais pas comment il a changé, comment s'il a été libéré, mais il est devenu un philosophe assez connu, donc les stoïques, hein, ceux qui peuvent tout endurer, on l'utilise toujours ce mot, et qui disait quelque chose du style, le maître peut punir, peut battre, peut torturer, peut menacer, peut tuer, mais il ne peut pas m'empêcher de penser ce que je pense. C'est mon espace de liberté. Et cette liberté de penser, elle est essentielle, elle doit être respectée et elle vaut la peine de se battre pour qu'elle puisse être dans une société. Mais il faut de nouveau pas confondre la liberté de penser avec le bonheur. Dans le sens où certaines personnes vont avoir leur point de vue, leur manière de voir et vont pouvoir l'exprimer et que ça soit accueilli, par exemple, mais peut-être cette manière de voir et de concevoir la vie n'est pas une manière qui mène à une vie dans laquelle il y a suffisamment de respect, ou dans laquelle il y a suffisamment de gratitude. Il peut y avoir des manières de penser qui, on le sait, qui sont même à l'antithèse. Hein, voilà, et on peut, ok, on respecte les manières de penser, ok, c'est la liberté de penser, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a cette tournure de pensée va trouver le bonheur. C'est peut-être pas du tout le bon chemin. Donc ce n'est pas juste conserver la liberté de penser en soi et seul qui mène au bonheur. On a très souvent d'ailleurs. Et parce qu'on pense ce qu'on pense, hein, et on ne le dira pas à tout le monde parfois ce qu'on pense, mais on a nos manières de penser, mais il y en a qui créent notre propre souffrance très souvent. Donc on est libre de les penser. Mais est-ce que c'est utile? Et souvent, quand on regarde les grands philosophes et tout ça, ils nous proposent des manières de penser, de manière à échanger la manière dont on pense avec une autre, qui est plus fructueuse, qui est plus belle, qui a plus de dignité et qui voit le monde avec plus de respect et du coup qui va créer de la grâce et de la beauté plutôt que du conflit et de la séparation. Donc oui, on est libre de penser, mais c'est une liberté en soi si elle n'est pas utilisée avec sagesse, elle n'a pas grande valeur en fait. Donc le yatra, cette marche, est. C'est un peu cru la manière dont je vais le dire, mais en fait est une atteinte à notre liberté, de manière, et là je pense que c'est vraiment très important, de manière à nous pousser dans nos derniers retranchements pour qu'on trouve la liberté ailleurs que ce qu'on croit qu'elle est, que là où on la cherche d'habitude. L'ombre qui court sur le sol. Mais bien sûr, à l'intérieur, ça pousse dans tous les sens parce que on le sent comme une atteinte à la liberté. De nouveau, pour certains, tout le monde ne va vont pas sentir ça, mais certains vont sentir que c'est une atteinte à la liberté. Que ma liberté, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire? Eh bien, parce que depuis trop longtemps, on pense que c'est en faisant ce qu'on a envie de faire qu'on va trouver le bonheur. Peut-être. À vous de voir ce que vous en pensez. Peut-être qu'on confond liberté et bonheur. Et la contrainte, donc dans le yatra, Il y a une contrainte, il y a des formes d'interdits qu'on accepte ou qu'on se pose soi-même. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans la restriction. C'est souvent dans la restriction que Dieu se trouve. C'est souvent dans la restriction que va venir la créativité, la nouvelle manière d'approcher quelque chose. Ah, regardez, si on va à un extrême, on va prendre la 16, hein, comme les pères et les mères du désert. Si, même époque, vers le 2e siècle, c'est juste, si quelqu'un connaît, hein, qui sont retirés de leur société parce qu'il commençait à y avoir trop de luxe et de profusion à leur goût, et qui ont été se mettre dans le désert de manière à être dans un contexte où il y a moins de choses. Ils se mettaient eux-mêmes en privation parce qu'ils cherchaient Dieu, la source, le bien-aimé de Rumi. Et du coup, en fait, c'est pas la liberté de je suis dans un lieu où je peux manger à ma faim, vivre comme je l'aime, choisir comme ceci, de vivre comme ceci ou comme cela. C'est au contraire de se mettre dans un contexte où il n'y a pratiquement plus rien. Et on dit que c'est souvent dans les déserts que Dieu parle à l'homme. Dans les endroits où il n'y a rien. Avant d'habiter en Inde, je travaillais dans le bâtiment et je faisais de la rénovation. Et j'avais souvent remarqué, en fait, en rénovation, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que à partir du moment où on a une contrainte, c'est-à-dire qu'il y a déjà des murs qui sont là, qui sont à moitié écroulés, il y a déjà des volumes qui sont donnés, il y a déjà une orientation, un lieu, il y a des choses qu'on ne peut pas changer quand on rénove. Eh ben, c'est parce qu'il y a des éléments qui sont imposés que viennent les magnifiques idées et toute la créativité. Et si on donne un champ vide et qu'on dit vas-y, fais une belle maison, eh ben, la créativité ne vient pas de la même manière. C'est souvent, et d'ailleurs, les artistes prennent souvent une contrainte au départ et posent une contrainte parce que c'est dans cette contrainte que va venir la créativité. C'est pas dans tout est possible, je fais ce que je veux. C'est je vais choisir une contrainte et dans cette contrainte, en fait, je vais découvrir la créativité. Et de nouveau, en musique classique indienne, c'est pareil. Par exemple, le raga, c'est pas une mélodie, c'est juste un ensemble de notes sur une échelle. Donc on va choisir trois ou quatre notes, c'est souvent sur trois, quatre, parfois cinq notes. Donc le raga va se passer sur ces cinq notes. Les autres notes, on ne peut pas les jouer déjà. Et puis, quand on monte l'échelle des notes, après celle-là, il faudra toujours jouer celle-là. Par contre, en redescendant, après celle-là, on ne pourra jamais jouer celle-là. C'est quelques règles comme ça. Et c'est cette règle qui donne une unité à toute la musique, parce que quand on monte après celle-là, il y a toujours celle-là, et du coup, ça donne une couleur, une tonalité, une sensation, une émotion. Par contre, en redescendant de celle-là, ça fait toujours comme ça ne repasse jamais par celle-là. Et à l'intérieur de ça, parce qu'une contrainte a été donnée, les plus beaux morceaux de la Terre ont été trouvés. Si on avait dit fais juste de la musique, sans poser au départ cette contrainte, la créativité n'aurait pas pu émerger. Ça semble antinomique pourtant, hein? La contrainte pour la liberté. La musique classique indienne, c'est 15 ans d'études à l'université de Bénarès. 12 ans pour la flûte, 15 ans pour le sitar, 15 ans pour le tabla, 15 ans pour le chant. Et quand vous avez fini l'université de Bénarès, là, vous êtes prêt à aller voir un maître. La musique classique indienne comporte un nombre incalculable de règles et de fonctionnements, et très mathématique. Et c'est une des musiques où on est le plus libre au monde. donner juste très peu de règles. Et si on veut rester ensemble, on doit faire tous plus ou moins la même chose. Ça paraît opposé, en fait. C'est une bonne nouvelle, en fait, ce que je suis en train de dire, parce qu'on venait de découvrir qu'en fait, pour être libre de vivre en communauté, pour l'union, quelle qu'elle soit, pour l'union, pour la reliance, pour l'unité, il fallait automatiquement abandonner une partie de notre liberté. Mais là, maintenant, on voit que, en fait, c'est en abandonnant une partie de notre liberté, c'est-à-dire en acceptant une certaine contrainte, qu'en plus, on va découvrir de la créativité. Donc, ça, vous voyez la différence? C'est deux choses différentes. Ça veut dire que dans le yatra, peut-être, parce qu'on a accepté de laisser de côté une partie de notre liberté individuelle, parce que sinon on aurait été un groupe d'amis, et c'est super aussi, mais on aurait été un groupe d'amis qui marche très différemment, et on aurait marché, peut-être pas dans la tempête de sable, on serait quand même mis l'un derrière l'autre comme ça, mais sinon on aurait marché en groupe, un peu en troupeau, hein, et puis chacun aurait pu se sentir beaucoup plus libre de s'arrêter, prendre une photo, regarder un peu tel caillou, telle plante, discuter de ceci, cela. Là, on ne peut pas parler, cette plante-là, elle nous intéresse, mais je ne peux pas quitter la file. Donc, il y a cette contrainte qu'on a acceptée. Mais peut-être que parce qu'on a accepté cette contrainte, ça va générer suffisamment de créativité pour trouver un autre bonheur. Pour peut-être, un moment, ne plus être des chasseurs d'ombre. Découvrir la source, un moment sentir et vivre la source de l'ombre dont Rumi parle. Il est facile de se perdre, en fait, dans ce genre de réflexion. Parce que dans la spiritualité, dans notre recherche spirituelle, il faut être capable, vous allez voir cette expression, je l'aime bien, il faut être capable de cultiver l'inverse et son contraire. C'est-à-dire qu'on doit garder cette qualité d'individualité qui fait de nous des êtres vraiment vivants, pleinement vivants, avec nos préférences, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on veut faire, ce qu'on n'est pas d'accord de faire. On est obligé de continuer, et c'est très important de continuer ça, et parfois il y a une perte de ça dans certains mondes du Dharma, de cette individualité, de suivre ses passions, de respecter ce que profondément on ressent de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, et d'aller. Il y a ce conformisme qui est toujours un risque. Et en même temps, si on veut vraiment un jour comprendre les enseignements de Rumi, de Bouddha et de tous les grands maîtres, ils ne nous parlent pas du développement individuel. Ce n'est pas de ça que ça parle. Et souvent on confond, en fait. Et du coup on interprète des enseignements de façon complètement erronée. Et ça devient du développement personnel. Et ce n'est pas du tout péjoratif, parce que le développement personnel, je viens de le dire, est essentiel et à ne pas négliger. Mais ce n'est pas de ça que ça parle. Ce n'est pas ça, c'est pas devenir quelqu'un de meilleur, ce n'est pas chercher à être plus juste avec soi-même. C'est ça, mais ce n'est pas que ça dans les enseignements. Il y a deux types d'enseignements. Il y a des enseignements qui sont relatifs et qui dépendent et qui parlent d'un monde et d'une société, et il y a des enseignements qu'on dit ultimes. Et quand Rumi parle de ne plus suivre les ombres, mais de sentir la source de l'amour, ça veut dire aussi qu'on... On abandonne la recherche de satisfaction dans les choses. On comprend que rien, aucune expérience de tout ce qu'on désire ne nous amènera ce qu'on cherche vraiment quand on a un appel spirituel. Rien. Un autre métier, de la renommée, de la réussite, une famille, un couple qu'on aime, tout ça, c'est super important, peut-être pas la renommée. Mais le couple qu'on aime, une certaine réussite, de réussir dans ce qui est important pour nous, d'entreprendre. Mais là, ce dont ces grands maîtres nous parlent, c'est d'une liberté et d'un bonheur complètement indépendant de la réussite et de l'échec. Ça ne change rien. Si on est dépendant de la réussite ou l'échec, à ce moment-là, on n'est pas libre. Donc là, vous voyez la liberté où on la mène. Et donc je pense, je vois que dans la restriction imposée par le yatra, dans la restriction imposée par le désert, par la restriction imposée par un groupe comme celui-ci, par toutes ces restrictions quelque part qu'on accepte, il y a un potentiel de créativité pour aller chercher un bonheur tout autre. Un bonheur qui ne dépend plus. Tout bonheur qui dépend, un jour partira. Sénèque, de nouveau, qui parlait de ça, en disant le stoïque peut être malade et heureux, peut être calomnié et heureux, insulté et heureux, torturé et heureux, mourir et heureux. La recherche du bonheur ne se passe plus dans la réussite ou l'échec, dans le fait que les choses aillent bien ou aillent mal. Dans le fait de vouloir faire ce qu'on veut, ou au contraire d'être restreint, voire très restreint. Comme ces gens qui ont vécu les atrocités d'une guerre, qui se retrouvaient en camp de concentration, comme Etiel Oussoum, que je cite souvent parce que c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Et qui jusqu'au bout est resté une lumière. Et qui a des paroles de liberté qui sont inspirantes pour le monde entier, alors qu'elle était derrière des barbelés et qu'elle savait que c'était la fin. Et des paroles d'amour. Et des paroles sans peur. Quelqu'un qui était suffisamment libre d'esprit pour ne pas tomber dans la haine. Qui voyait la haine beaucoup plus dangereuse que les SS, qui avait beaucoup plus peur en fait d'être prise par la haine que de tout ce qui l'attendait face aux SS. C'était tout le temps dans ses prières, faites que je ne sois jamais prise par la haine. Parce que quand on est pris par la haine, c'est game over. Là, c'est le marasme du moment où on s'éveille jusqu'au moment où on dort. C'est la définition de l'enfer peut-être. Et je trouve que, en fait, c'est beau parce que, du coup, il y a une justice là-dedans. Il y a une justice parce que le bonheur n'est pas réservé aux gens qui peuvent se le permettre. Qui sont en bonne santé, qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir faire ceci et cela. Qui sont dans un contexte dans lequel, ok, dans un contexte comme ça, c'est ok d'être heureux parce qu'il y a d'autres contextes, c'est pas possible. Peut-être ça, c'est ça la justice divine. Ça s'achète pas. C'est ailleurs. Ça ne dépend pas des conditions extérieures. Si ça existe, alors la liberté existe. Si ça n'existe pas, la liberté n'existe pas. Parce qu'un jour ou l'autre, on sera restreint, et un jour ou l'autre, il se passera quelque chose qui fait qu'on ne se sentira plus libre. On sera diminué avec le grand âge. Si on a l'habitude de trouver la liberté dans le fait de, par exemple, danser, quand je danse, je me sens complètement libre. C'est magnifique, c'est très important. Et je certainement n'entendais aucun dénigrement, c'est une voie spirituelle. Mais il faut découvrir la liberté indépendante de la danse. Parce qu'un jour, on ne pourra plus danser. Et si ce jour-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vivre? Le jour où le corps ne pourra plus. Du coup, ça y est, la porte s'est refermée. C'était temporaire, ça dépendait, c'était dépendant. Eh bien, ce n'est pas une liberté. Et c'est difficile pour nous de comprendre ça. C'est difficile pour nous de comprendre ce que c'est la spiritualité. Très honnêtement, j'ai toujours pas compris. Très honnêtement, ma compréhension continue à changer de ce que ça veut vraiment dire. C'est un sacré bazar. Ça parle de tout autre chose. C'est un changement de paradigme complet. Et c'est un changement de paradigme complet encore plus pour nous autres occidentaux. Parce que nous, on a la pensée matérialiste. Qu'on le veuille ou non, on peut être spirituel si on veut, mais on est quand même baigné d'un esprit matérialiste. C'est-à-dire que pour nous, on est matière. On est le fruit de l'évolution du cosmos, de la manière dont les atomes se sont agencés. C'est très difficile pour nous d'imaginer que la possibilité que quelque chose de nous existe en dehors du temps. Là, maintenant, dans notre expérience, là, on est là, assis ensemble. Il se pourrait qu'une bonne partie de ce qui est là dépende du temps. On le voit bien, hein, on ne va pas le nier, le corps, hein, du coup le cerveau, la matière. Hein. Le cerveau, c'est de la matière. Le cerveau qui lui génère des émotions, hein, on est bien d'accord avec tout ça. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de nous qui existe, qui est là, maintenant, et qui n'a absolument aucune relation avec le temps, qui existe en dehors du temps? Eh bien, pour nous, cette question-là, blam, ça fait comme un gros mur. Parce qu'on n'a pas l'esprit préparé à concevoir la possibilité du non-temps. Le non-né, on l'appelle parfois, hein, dans les livres de... Je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais dans les livres de spiritualité, le grand un, l'omniscient, immanent, quelque chose qui n'a pas son contraire. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'au cœur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne dépend pas du mouvement du temps, du changement de la matière et des circonstances? Si oui, à ce moment-là, tout ça a un sens. Sinon, eh bien, faisons tout ce qu'on peut pour vivre le plus dignement et pour vivre avec le plus d'amour. Et puis après, ça s'arrête. Moi, ça me va aussi, en fait. Mais c'est ça la question qui se pose. Mais cette question, elle est très difficile pour nous autres occidentaux. On n'a pas une structure et un schéma de réflexion qui aient les bons concepts pour pouvoir donner vie à des compréhensions. Et souvent, beaucoup de gens ont des expériences mystiques, des expériences de tout autre, des expériences de autre chose, mais on n'a pas le cadre conceptuel pour les inclure. Et très souvent, on les oublie parce qu'on n'a pas pu les inclure à notre expérience. Ça reste un espèce de vague souvenir, mais qu'on n'a pas pu réaliser la signification profonde de ce qui s'est passé là. Qu'on a vu autre chose parce qu'on n'a pas la capacité de le concevoir. Il nous a manqué l'enseignement spirituel de notre société. Parce que l'Église a failli, Elle est tombée, elle a été dirigée par des gens qui avaient un esprit matérialiste et beaucoup d'ego. Et du coup, c'est eux qui ont repris un message et l'ont corrompu à leur. C'est mon interprétation, hein, mais l'ont corrompu pour leur propre ego. Et du coup, on a rejeté le truc en bloc, avec en plus l'arrivée des sciences et du matérialisme. On en est arrivé à un monde où on pense que tout est matière. La majorité des gens, même dans le monde neuroscientifique, pensent que la conscience est un produit du cerveau. Ce n'est pas prouvé, parce qu'on n'a toujours pas trouvé d'où venait cette conscience. Mais je crois que c'est 85 ou 90% des neuroscientifiques qui ont la conviction profonde que c'est le cerveau, donc la matière, qui produit cette capacité d'être conscient. Différentes explications et tout ça. Il y a seulement 10% de neuroscientifiques qui pensent que peut-être le cerveau ne serait qu'un filtre de quelque chose qui passe à travers, comme la lumière passe à travers un vitrail. C'est un peu comme dire, que tout ce qu'on voit dans un ordinateur est stocké dans l'ordinateur. Que quand on fait une recherche sur Internet, c'est comme si on avait l'impression qu'en fait, la recherche, elle était, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est dans le disque dur. Tout appartient à cet ordinateur. Rien ne vient de en dehors de l'ordinateur. Tout vient du cerveau. Rien ne vient en dehors du cerveau. Donc pour nous, c'est très difficile de comprendre ces enseignements. Donc, tout ces. Toutes ces grandes traditions, ces enseignements spirituels, en fait, nous parlent de quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Nous parlent de quelque chose qu'on a du mal à comprendre et du coup qu'on réduit très fort. Mais on a déjà compris ici ensemble, du moins je l'espère, ou entrevu, le fait, la différence entre tenter à tout prix de rester libre et la chance qu'on a. Donc, déjà, j'espère, on l'a compris, qu'en fait, il y avait besoin de certaines restrictions pour pouvoir aimer, pour pouvoir faire un, pour pouvoir accepter, et qu'en plus, c'était grâce au fait que tout ne restait pas ouvert, c'était grâce au fait que, quelque part, on apprend à aller vers... avoir besoin de moins de choses pour être heureux, que on pouvait trouver une autre manière d'être heureux, une manière tout autre. Et là, ce qui est intéressant, je pense, c'est que quand on chemine avec ces notions, en fait, comment est-ce que je vais dire? En fait, on discutait avec Lanza, mon fils, l'autre jour, on disait c'est quand même mal fait parce que tout ce qu'on aime bien, c'est pas bon pour la santé. Hein? Les chips, le chocolat, le café. Et puis, le fruit le plus facile de manger, la banane, on lui dit toujours mange des pommes, c'est bon les pommes. En fait, il y a plein de choses, c'est vraiment ce qu'on aime, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faudrait qu'on mange. Hein? Et parfois, il y a des trucs, c'est vraiment bon pour la santé, mais ça, c'est plus dur à manger quelque part. Mais quand on comprend que peut-être dans la restriction se trouve notre chemin spirituel, c'est une bonne nouvelle parce que c'est aussi le chemin pour la bonne santé. Parce que on sait que l'alimentation est aussi une alimentation émotionnelle où on va beaucoup manger pour se distraire. On se demande de quoi on essaie de se distraire. Et parce que il y a de l'ennui et tout, du coup on mange. Et en fait, c'est pas bon pour notre santé. Eh ben, c'est pas bon pour notre spiritualité non plus. Et ça, je trouve ça, c'est. Moi, je suis content de comprendre ça parce que au moins, ça va dans le même sens. Il n'y en a pas un qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon pour notre spiritualité. Et c'est pas bon pour la planète de surconsommer. Donc, en fait, ça, c'est super, ça. Ça, parce qu'on a au moins une direction qui est claire, quoi. Moins consommer. Moins consommer, ça va être bon pour notre santé. Moins consommer et mieux, et avec plus d'esprit, et avec beaucoup de gratitude pour ce qu'on consomme. Hein? Mais moins consommer, du coup, se restreindre. Et là-dedans, du coup, là, on a pris l'habitude de consommer pour être heureux. Ah, parce qu'on nous a bien martelé avec ça, hein? Ces vendeurs. On nous a appris à bien consommer pour être heureux. Et du coup, là, on se rend compte que, en fait, si je consomme moins, eh ben, il va y avoir cette restriction, comme dans la marche du Yatra, qui va me pousser à trouver le bonheur ailleurs. Parce qu'on cherche le bonheur, toujours. On est câblé pour ça. On cherche le bonheur. Tout le monde veut être heureux. Facile. On cherche le bonheur. C'est profondément ancré en nous. On cherche le bonheur. Et du coup, enlever tous les trucs qu'on utilise pour essayer d'être heureux, et cette accumulation de satisfaction, de désir, parce qu'on confond souvent la différence entre satisfaire un désir et être heureux. Et du coup, si on enlève ça, ça fait... c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je trouve ça pas facile. Mais c'est comme le yatra. On est restreint, ça va être bon pour notre santé, c'est bon pour notre écologie intérieure, c'est bon pour notre planète, et ça va peut-être nous obliger à nous permettre de découvrir la source du bonheur dont Rumi parle. On va arrêter de courir après les ombres, en croyant que c'est ça qui va me rendre heureux, c'est ça qui va me rendre heureux, et encore un petit sandwich comme ça, et encore un petit truc comme ça, et parce que c'est ça qui va me rendre heureux. Et peut-être qu'on trouve en fait la source du bonheur. Cet autre proverbe de Rumi que je citais dans le cercle l'autre jour, le soleil admis, je ne suis qu'une pâle réflexion. J'aimerais vous montrer la source incandescente ou la source de lumière infinie. On s'attache à ce qui n'est qu'un reflet du bonheur. Si on fait un peu le vide autour de nos petites techniques pour être heureux jour après jour, qui en fait ces techniques quelque part nous agitent, on joue le jeu de la société de consommation, on est partie prenante, pas la peine de jeter des pierres sur la société, on fait pareil, on est dedans, hein. On est prisonnier d'un système qui nous déplaît. On détruit notre santé, on détruit la planète et on va exactement à l'opposé du chemin spirituel. Donc du coup, machine arrière. On renverse la vapeur, pas parce que, pas que pour être en bonne santé ou pour la planète ou pour l'éthique ou pour même une éthique sociale, mais aussi parce que c'est le chemin pour trouver le bonheur qui ne dépend de rien. Si ça existe, pour moi, c'est une certitude, c'est le chemin. C'est comme ça que j'entends cette parole de la Bible où il est plus difficile à une personne riche de me suivre, dit Jésus, qu'à un chameau, et là on en a des gros, hein, à passer par le chat d'une aiguille. Ah, c'est énorme quand même. Il aurait pu dire impossible. Hein. Parce que une fois qu'on peut tout se permettre, comment résister? C'est pour ça que les gars, ils allaient dans le désert. Parce que là, au moins, il n'y a pas la tentation. Restait pour Jésus, le diable, hein, qui venait et qui lui disait « Tu peux avoir tout ce que tu veux. » Bouddha, il a eu la même chose, hein, au moment de l'éveil. la renommée, les plus belles femmes, la richesse. Et en plus, c'était vrai parce qu'il avait acquis, il était encore jeune, il avait énormément de puissance d'esprit. Ça devait être un très bel homme avec beaucoup de charisme. Il suffisait qu'il retourne dans le monde et il pouvait trouver toutes les sources de ce qu'on croit être le bonheur. A pas bougé, le gars. Et du coup, il a été touché par autre chose. Peut-être qu'il a arrêté de courir après les ombres. Ça y est. Mais c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on cherche. Il y a tout l'aspect développement personnel, j'y reviendrai, c'est très important. Il y a une grosse tendance dans le dharma, une fois qu'on comprend un peu ses enseignements ultimes, à laisser de côté tout ce qui est développement personnel et l'éthique. Pourtant, le lien est énorme. Le fait d'améliorer notre attitude et notre éthique, super important. Peut-être je ferai un discours là-dessus. En fait, c'est impossible d'évoluer et d'arriver à la connaissance dont on parle ici, sans avoir une transformation de nous-mêmes au niveau de l'éthique. On doit changer éthiquement pour pouvoir percevoir autrement. On doit, en tant que sujet en recherche, être en transformation constante pour que notre manière de voir change. Et donc, du coup, ça, c'est très cohérent parce que si on arrête de dépendre de ce qu'on peut acheter, de ce qu'on peut consommer, de ce qu'on peut devenir pour être heureux, à ce moment-là, on va avoir une attitude éthique par défaut. Ça va juste être, c'est très éthique en fait, quand on ne court plus après une consommation, quand on n'a plus besoin d'être quelqu'un de spécial, quand on n'a plus besoin de pouvoir, d'avoir, d'être vu, d'avoir du pouvoir. Par définition, c'est une attitude éthique. Donc il y a un lien qui est très fort. Et souvent dans le dharma, il y a une compréhension des enseignements un peu plus ultimes, comme ceux que je viens d'effleurer là. Et du coup, on laisse tomber tout ce qui est plus du développement du soi. Je vais finir avec j'y reviendrai à ce discours parce que là c'est un peu l'intro et mais on va bientôt bouger, mais je vais y revenir et juste pour finir, une citation du Coran, hein, c'est au bon endroit. Eh ben, on la connaît tous, hein, Allahu Akbar, hein, qui veut dire Dieu est le plus grand. Et en fait, c'est une citation qui appelle à la destruction de l'ego. C'est-à-dire reconnaître, arrêter de chasser toutes ces petites ombres de moi je veux ci pour être heureux, moi je veux ça pour être heureux, et s'en remettre et ne plus dépendre. C'est une manière de le comprendre. Merci pour votre écoute. On va prendre une minute de silence et puis chacun va aller rapidement attraper son sac avec une bouteille d'eau, de quoi se couvrir, la lampe de poche. C'est tout? Et on se retrouve ici. Il faudra que ça soit et de la crème solaire. Et voilà. Et on le fera vraiment, vraiment tout de suite, parce que le temps qu'on monte et tout, on voudrait pas rater le coucher du soleil. So, English people, are you here? Yes. So, we will have 1 minute of silence, Amy. And then after we will gather and we will go for the mountain climbing. On peut prendre trois respirations conscientes avant d'ouvrir les yeux et d'aller chercher nos sacs.